Et nous passons au point numéro 2, le compte administratif que nous présente Jean-Claude Giroux.
Alors, je vous propose de commencer directement par l'examen de la quatrième annexe de ce deuxième rapport qui s'intitule « Balance 2017 ».
Alors, c'est le rapport, combien, le quatrième récapitulatif,
rapport, deuxième rapport.
Ah, balance. C'est le premier, alors, voilà, oui. Qui figure sur nos tablettes.
D'accord. Voilà, c'est ça, le schéma, enfin, la balance. Voilà. Donc, cette annexe reprend les chiffres du rapport et explique la mécanique financière qui mène à l'affectation du résultat de fonctionnement cumulé 2017. Les modalités de cette affectation seront par ailleurs formalisées par un vote au rapport numéro 3. En section de fonctionnement, compte tenu du résultat dégagé en 2017, soit 1 047 555 euros, et du résultat 2016 reporté, on obtient fin 2017 un résultat cumulé de 3 223 261 euros. Au-dessous, en section d'investissement, compte tenu du résultat positif de 2017, soit 857 746 euros, et du déficit 2016 reporté qui s'élève à 1 066 998 euros, on aboutit à un déficit de clôture cumulé de 209 252 euros, qui devra être soldé grâce à l'affectation du résultat de fonctionnement. Ensuite, viennent les restes à réaliser en dépenses et recettes, qui font naître, eux aussi, un besoin net de financement supplémentaire de 203 325 euros. On retrouvera ces restes à réaliser en section d'investissement au compte administratif 2017, ainsi que leur reprise au BP 2018. Au final, compte tenu du déficit de clôture et des restes à réaliser nets, le besoin global de financement de la section d'investissement s'élève à 412 577 euros. Le schéma en bande de page montre comment seront affectés les 3 223 261 euros du résultat de fonctionnement 2017. 412 777 euros seront virés en section d'investissement pour solder le déficit de la section. On retrouvera par ailleurs ce montant en recette d'investissement au BP 2018. Quant au reste du résultat de fonctionnement, soit 2 810 684 euros, il sera reporté en recette de fonctionnement au budget 2018, et contribuera ainsi à sécuriser le financement de l'activité de la commune au quotidien. Plus loin, en annexe du BP 2018, on retrouvera cette ventilation du résultat dans la présentation schématique de la balance du BP. Venons-en maintenant au compte administratif proprement dit, en ouvrant la première annexe intitulée « Récapitulatif par chapitre CA 2017 ». Comme vous le savez, le compte administratif retrace l'exécution du budget par l'ordonnateur, autrement dit le maire. Il doit coïncider avec le compte de gestion tenu en parallèle par le comptable public, ce qui vient d'être acté. Rappelons également que les comparaisons se font de CA à CA et que le budget 2017 a été adopté dans une présentation par chapitre dont les contenus détaillés sont joints en annexe. Le compte administratif est la troisième et dernière étape du cycle financier. Un dicton dit qu'il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Alors, osons une métaphore agricole. Le débat d'orientation budgétaire prépare le terrain, le budget l'ensemence et le compte administratif récolte. Alors, quelle est la récolte en 2017? Alors, pour le savoir, examinons la section de fonctionnement en allongeant plus ou moins la focale selon le niveau d'analyse souhaité. On commencera par un examen global des grandes masses de dépenses, en ciblant les opérations réelles, car elles seules déterminent l'épargne brute. On se reportera pour cela à la colonne « Total réalisé 2017 ». Dans cette colonne, on retiendra essentiellement le sous-total des quatre chapitres de dépenses de gestion courante, soit 5 479 805 euros, car il reflète le coût de la mise en œuvre des services au quotidien, personnel compris. Il représente 99% des dépenses réelles et progresse de 3,94%. Alors, pour en avoir l'explication, descendons au niveau du chapitre. Le premier chapitre est le 011, charges à caractère général, qui représente 28% des dépenses de gestion courante. Ce chapitre regroupe les dépenses nécessaires à la mise en œuvre de l'action municipale au bénéfice d'un nombre d'habitants toujours plus grand. Ce n'est pas le plus gros chapitre, mais c'est celui qui progresse le plus fortement. Cette hausse de 8,30% fait suite à une baisse de 4,73% en 2016, soit un écart de 13% entre ces deux variations. Le chapitre 011 est un chapitre globalisé dont 37% concerne les achats gérés directement par les services, que ce soit en fournitures diverses, en fluide, en arrêt cantine par exemple. Quant au reste du chapitre, il regroupe l'ensemble des prestations de services réalisées par divers partenaires économiques pour le compte de la commune. Cela va de l'entretien des bâtiments et de la voirie au recours aux professions libérales, en passant par les frais de transport, les télécommunications, l'énergie par exemple. Dans une entreprise, on pourrait assimiler ce chapitre aux frais généraux. Comme c'est le moins prévisible des chapitres de dépenses, car il est très dépendant de la conjoncture, l'analyse de son évolution n'est pas aisée, notamment pour les raisons suivantes. Son comportement d'abord. Entre 2008 et 2017, les variations de ces pourcentages d'évolution se dispersent entre des bornes allant de moins 10 à plus 24%, enchaînant dans ce grand écart des hausses et des baisses sans rythme précis et avec des amplitudes diverses. Cet effet yo-yo avait été mis en évidence lors du débat d'orientation budgétaire par une courbe d'évolution du ratio par habitant loin d'être linéaire. Partant de là, en déduire une tendance d'évolution franche pour ce chapitre n'est pas facile. C'est ce qui fait sa singularité, mais aussi la difficulté de son analyse. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer les sauts de cabri de ce chapitre ? De tous les chapitres, c'est celui qui est le plus influencé par l'activité au quotidien. Dès qu'un ordinateur démarre, instantanément une dépense d'énergie vient faire tourner le compteur du 011. Des opérations comme celle-ci, il y en a des milliers, et chacune ayant son propre rythme d'évolution. Pour capturer ce quotidien, pas moins de 57 lignes de regroupement sont nécessaires pour réaliser les imputations, contre 18 par exemple pour les dépenses de personnel. On peut donc faire l'hypothèse que pour une année donnée, les lignes à la hausse et celles à la baisse puissent ne pas se compenser, entraînant ainsi une variation du chapitre plus ou moins forte. Les extrêmes étant que pour une année donnée, toutes les lignes soient simultanément à la hausse ou toutes à la baisse. Par exemple, il pourrait arriver théoriquement à la collectivité la même chose qu'à un particulier qui constate pour un mois donné que tout tombe en même temps, comme on dit. N'allez pas lui parler de tendance. À ces considérations qui tiennent à la structure du chapitre, peuvent s'en ajouter d'autres qui tiennent au comportement des dépenses. Par exemple, les illuminations de Noël inscrites initialement à un investissement au budget ont finalement fait l'objet d'une location qui, elle, est inscrite en fonctionnement. Ce revirement que nous avons acté en DM entraîne 12 000 euros de plus dans le chapitre 011, sans que pour autant le total du budget en ait été modifié. D'autres dépenses ont un caractère ponctuel et n'ont pas vocation à être renouvelées, comme par exemple l'étude faite en 2017 concernant les risques psychosociaux. Résultat, 15 000 euros de plus dans le chapitre 011. D'autres dépenses peuvent avoir un long taux de retour dans nos comptes, comme par exemple le curage du bassin d'orage situé près du château Saint-Marcel. Il coulera beaucoup d'eau dans ce bassin d'ici le prochain curage, ce qui soulagera le 011 pendant quelques années. En attendant, cela fait 16 000 euros de plus dans le 011 en 2017. On trouve aussi des dépenses nouvelles, notamment cette année, une dépense au profit de l'agglo qui exerce désormais à notre place la police de l'urbanisme, ceci pour 3 000 euros. Enfin, on trouve les dépenses de fonctionnement induites par notre politique d'investissement. Je rappelle ce qui a été dit lors du débat d'orientation budgétaire, à savoir qu'on ne peut pas souhaiter investir et refuser ensuite les charges de fonctionnement qui en découlent. Si on caricature, cela reviendrait à accepter de financer l'acquisition de véhicules, mais pas l'achat de son carburant. Ça serait pour le moins paradoxal. Plus précisément, lors du débat d'orientation budgétaire, il a par exemple été dit que le projet de la tour de la Cassagne aura nécessairement un impact sur le 011. Pour 2017, c'est 24 000 euros. Résultat, à elle seule, la tour de la Cassagne justifie 20% de l'augmentation du chapitre. Partant de cet exemple, s'il s'agit maintenant de comparer 2017 avec 2016 dans l'objectif de dégager une tendance, On comprend le risque de comparer une année avec la tour, avec une autre, sans la même tour, ce qui ne serait pas cohérent. Il en va de même pour les exemples précédents. On ne peut donc pas faire des comparaisons réalistes sans avoir procédé à un minimum de retraitement des données comptables. C'est notamment ce que l'on fait, par exemple, lorsque l'on veut raisonner, toute chose étant égale par ailleurs. Sur les 8,30% de progression du chapitre, 60% sont imputables aux quelques exemples hors tendance qui viennent d'être évoqués. On peut donc en déduire qu'il ne serait pas cohérent d'inclure ces opérations hors tendance dans un calcul ayant pour objectif de cerner au mieux une tendance d'évolution. La logique commande donc de neutraliser ce type de données qui viennent tordre les comparaisons. Ceci fait, on peut calculer ici un nouveau taux de progression du chapitre 011 qui sera plus réaliste que le taux brut de 8,30% annoncé. Après retraitement, ce taux tombe à 3,3%. Il représente l'évolution structurelle du chapitre, celle de son noyau dur, c'est-à-dire l'évolution de toutes les autres dépenses, sous l'effet des variations des prix ou des volumes consommés notamment. In fine, après ce retraitement, le total des quatre chapitres de dépenses de gestion courante n'augmente pas de 3,94%, mais 2,6%, et je vais tenter de dire inflation comprise. Structurellement, on peut dire qu'en 2017, les charges à caractère général ont été contenues. Donc voilà pour ce qu'il en est de l'analyse un petit peu de la variation de ce chapitre, qui a été un peu longue, je reconnais. Ensuite, passons au chapitre 012, charges de personnel. Avec 59% des dépenses de gestion courante, c'est le chapitre qui pèse le plus en volume, mais avec un taux de progression de 1,49%, c'est aussi celui dont le taux progresse le moins. Alors, quels événements sont venus influencer la structure de ce chapitre en 2017 ? D'abord, une opération ponctuelle concernant le recensement pour un coût de 12 000 euros, représentant la rémunération des agents recenseurs. Puis le remplacement du personnel titulaire en hausse de 63 000 euros, qui vient après une baisse de 30 000 euros entre 2015 et 2016. Ici, les variations sont conjoncturelles et donc difficilement prévisibles. Cette hausse doit toutefois être relativisée, car ce risque est couvert par une assurance. De plus, un reclassement des échelles indiciaires est intervenu en 2017, accompagné d'autre part d'une deuxième augmentation de 0,6% du point d'indice de la fonction publique après celle de 0,6% survenue en 2016. Pour ce dernier point, il faut préciser qu'en 2016, qui est la base de la comparaison, l'augmentation de 0,6% du point d'indice n'apportait que sur les 6 derniers mois, alors que 2017 a été une année pleine. Au final, l'augmentation cumulée de 1,2% a été majoritairement supportée par 2017. Il en résulte une progression du chapitre de 1,49%, sachant toutefois que statistiquement, l'évolution de la carrière des agents représente entre 2 et 3% par an. Si l'on retient ce paramètre, on constate que ces dépenses sont mieux que maîtrisées. Globalement, depuis 2015, le ratio des dépenses de personnel ramené au nombre d'habitants est resté stable, comme on a pu le constater à partir d'un graphique lors du débat d'orientation budgétaire. Voilà donc pour les dépenses de personnel. Ensuite, au compte 014, on retrouve deux opérations vues en DM, à savoir un dégrèvement de taxes foncières pour les jeunes agriculteurs et notre contribution au fonds de péréquation intercommunautaire. Ensuite, au chapitre 65, on trouve les autres charges de gestion courante. Ce chapitre représente 13% des dépenses courantes et progresse de 6%. Sa variation de 40 700 euros résulte de la subvention d'équilibre de 40 000 euros versée au CCAS, qui passe de 360 000 euros en 2016 à 400 000 euros en 2017. Pour info, nous avions versé 410 000 euros en 2015. Cette subvention ne progresse pas linéairement, elle dépend des besoins du CCAS que nous ne connaissons pas au moment du vote du budget. Comme autre fait marquant, on trouve notre contribution au coût salarial d'un emploi sportif au taekwondo et une diminution de 8 000 euros de notre participation au CIVU Centre de loisirs. Au chapitre 66, la baisse rend compte de la diminution des frais financiers accompagnant logiquement le désendettement. Au chapitre 67, on trouve notamment les annulations de titres concernant la TLPE. Voilà donc pour les dépenses réelles. Pour en finir avec les dépenses, on trouve notamment au 0,42 en opérations d'ordre les amortissements que l'on retrouvera en recettes d'investissement en 2018. Avec l'autre tableau, on peut donc passer aux recettes. Alors, comme pour les dépenses, on commencera par un examen global des grandes masses, en privilégiant les recettes réelles, car elles seules, bien sûr, participent à la formation de l'épargne brute. On se reportera pour cela à la colonne totale réalisée 2017. Dans cette colonne, on retiendra essentiellement le sous-total des 5 chapitres de gestion courante, soit 6 941 676 euros, qui représente plus de 99% des dépenses réelles. Il progresse de 1,46%, ce qui est à peine supérieur à l'inflation. Alors descendons au niveau du chapitre, en commençant par le 0,13 atténuation de charges, qui semble exploser en augmentant de 158%. Alors on trouve ici le remboursement par l'assurance des rémunérations des agents titulaires en arrêt de longue durée et le remboursement des rémunérations des agents en décharge syndicale. Depuis 2017, on trouve également ici une nouveauté, à savoir le remboursement pour 35 500 euros des chèques déjeuner qui, jusqu'en 2016, était imputé au chapitre 75. C'est ce changement d'explication qui explique en partie la hausse de ce chapitre en 2017 et puis qui entraînera par voie de conséquence une partie de la baisse du chapitre 75, comme on le verra un peu plus loin. Alors, pour mémoire, cette forte hausse en 2017 succède à la très forte baisse atypique de 63% en 2016, qui avait été expliquée en son temps. Donc là encore, on a un chapitre qui fait du yo-yo, sa progression n'est pas linéaire. Passons ensuite au chapitre 70, produits des services. Ce chapitre augmente de près de 21%, soit 43 000 euros, dont 13 200 euros pour l'accueil de loisirs passés en année pleine, et 26 800 euros qui résultent de l'obligation faite à partir de 2017 de valoriser le coût salarial du personnel mis à la disposition de la LJPA. C'est cette nouvelle obligation qui explique la forte augmentation du chapitre. Donc ce sont des raisons techniques qui ont amené ce chapitre à évoluer essentiellement. Passons au chapitre 73, impôts et taxes. C'est le plus fort de nos chapitres de recettes. Malheureusement, il marque le pas en affichant un petit 1,81% d'augmentation. On trouve ici les impôts locaux qui n'augmentent que de 68 700 euros grâce à la variation physique des bases imposables et leur revalorisation de 0,4%. On trouve également ici l'attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire, mais bloquées toutes deux au niveau de 2016. On enregistre toutefois dans ce chapitre une hausse notable de 70 000 euros des droits de mutation. Là aussi, ce sont des éléments qui évoluent selon la conjoncture. La seule baisse notable concerne la TLPE, qui perd 36 000 euros, en passant sous la barre des 300 000 euros, toujours à la recherche de son régime de croisière. Ensuite, au chapitre 74, dotation et participation. Ce chapitre perd 17,74% entre 2016 et 2017. Perte qui fait suite aux près de 20% perdus entre 2015 et 2016. Le message est clair, le régime des dotations ne sera plus ce qu'il a été. L'essentiel de cette perte est à mettre au compte de la DGF, qui a encore baissé de 100 000 euros en 2017, après avoir baissé de 142 000 euros entre 2015 et 2016. En 2018, elle ne baissera que de 5 000 euros, ce qui devrait enrayer la chute de ce chapitre. Parmi les autres baisses significatives, on trouve notamment la baisse de 44 000 euros de l'aide de l'État et de l'agglo, compte tenu du changement de statut d'une partie des emplois d'avenir. Et la baisse de 11 000 euros des subventions du département, touchant la voirie et la fête de la lecture. Les quelques hausses significatives concernent la dotation de solidarité rurale pour 4 700 euros et depuis 2017, la récupération de la TVA sur certaines opérations de fonctionnement pour 27 000 euros. Au chapitre 75, autres produits de gestion courante, on note une très forte baisse de 55%, soit 80 000 euros. En réalité, près de la moitié de cette baisse, soit 38 000 euros, est la conséquence du changement d'imputation en 2017 des chèques déjeuner, désormais au chapitre 0,13, comme on l'a signalé il y a un instant. Le reste correspond à la baisse du revenu des immeubles, dont 25 400 euros pour le loyer de la Poste notamment, compte tenu de la révision du bail. On enregistre également une baisse au niveau de l'espace culturel, ainsi que du gîte. Voilà pour les 5 chapitres des recettes de gestion courante. Ensuite, au chapitre 76, on trouve comme tous les ans le remboursement par la MARPA des intérêts de ses emprunts en baisse logique. Au chapitre 77, sont enregistrés des produits exceptionnels, donc aléatoires par définition. En 2017, la baisse de ce chapitre est sensible. Elle résulte pour l'essentiel de la diminution des produits des cessions d'immobilisation, de celle des pénalités sur chantier et des remboursements de sinistres. Au chapitre 78, on trouve une reprise sur une provision pour couvrir des impayés. Ce chapitre varie de façon aléatoire au gré des litiges ou des risques. Pour terminer, au chapitre 042 en opération d'ordre, on trouve la valorisation des travaux en régie. Voilà donc pour la section de fonctionnement. Passons maintenant à la section investissement. En matière d'investissement, chaque année est singulière de par la nature des projets réalisés et dépend en volume de la planification retenue dans le cadre du PPI. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Alors, on commencera par les dépenses en considérant dans la colonne mandat émis le sous-total des 5 chapitres de dépenses d'équipement en lien direct avec les projets. Ce sous-total, qui s'élève à 2 265 597 euros, donne la mesure de l'effort d'investissement de la commune en 2017. Pour information, il est inférieur de 11% au réalisé 2017, qui était une année exceptionnelle. Il n'en reste pas moins que ce total reste très élevé pour une commune de notre taille, signe que notre politique d'investissement est restée vigoureuse en 2017. Alors donc, venons-en au chapitre, toujours dans la colonne mandat émis. Au chapitre 20, immobilisation incorporelle, on a un total de 112 703 euros. On y trouve ici principalement les études en lien avec les projets, pour 90 000 euros. Le reste concerne les licences informatiques pour 19 000 euros et les frais d'insertion pour 2 600 euros. Au chapitre 204, subventions versées. Dans le total de 141 869, on trouve principalement les subventions pour les logements sociaux de la Croix-Saint-Pierre, la Couronne, la Scarérotte, pour un montant global de 137 500 euros. Pour le reste, on trouve les fonds de concours versés à l'agglo et les subventions versées au SDE pour les effacements de réseau. Au chapitre 21, immobilisation corporelle, on trouve pour un total de 621 246 euros toutes les réalisations terminées en 2017. Parmi les plus conséquentes, on trouve l'acquisition de terrain pour 90 000 euros, la déconstruction de la maison fleurie pour 43 000 euros, des installations et agencements divers, 60 000 euros, la voirie, des installations de voirie pour 157 000 euros, des réseaux divers pour 36 000 euros, du matériel de l'outillage, 108 500 euros, du matériel informatique, 34 000 euros. Bref, ces quelques exemples représentent 85% du chapitre, soit 528 600 euros. Au chapitre 23, immobilisation en cours, on trouve un total de 1 389 778 euros, qui représente des travaux en cours concernant les bâtiments communaux et scolaires pour 586 000 euros et la voirie pour 803 700 euros. Alors, parmi les opérations significatives, on trouve ici le bâtiment scolaire pour 400 000 euros, le bâtiment technique à Cancel, 181 000 euros, le cheminement de la tour La Cassagne, 193 000 euros, les trottoirs de la rue de Bigorre, 126 000 euros, la rue de l'école, 473 000 euros, et ceci représentant quasiment 99% du chapitre. Voilà pour les dépenses d'équipement qui regroupent les chapitres 20 à 23. À ce montant s'ajoutent toutefois les 469 866 euros de reste à réaliser qui seront reportés en dépenses d'investissement au budget 2018. Au chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, on constate le remboursement capital des emprunts en 2017, soit 222 246 euros. Voilà donc pour les dépenses réelles. Pour finir, on trouve en opération d'ordre au chapitre 040 les travaux en régie dont nous avions vu la valorisation au chapitre 042 en recettes de fonctionnement. Puis au chapitre 041, opération patrimoniale, on trouve l'intégration au patrimoine communal des études des projets terminés. On retrouvera ce montant en recettes, ce qui au final est neutre. Ensuite, si on passe aux recettes, au chapitre 13, on trouve les subventions pour un total de 530 115 euros, dont 403 000 euros de FST. Pour le reste, on trouve les dotations d'équipement pour les territoires ruraux, pour le pôle scolaire et le bâtiment sport, mais on trouve aussi la CAF et la MSA pour la ludothèque. Au chapitre 16, on trouve un emprunt de 55 800 euros à zéro intérêt. C'est un emprunt accordé par la CAF pour l'accueil de loisirs. Au chapitre 10, on trouve le remboursement par l'État de la TVA que la commune a supportée sur ses investissements, soit 391 734 euros, et la taxe d'aménagement pour 123 090 euros, qui double par rapport à 2016. Cette taxe peut connaître des variations importantes d'une année à l'autre selon la conjoncture. Au compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé, on trouve l'affectation de l'excédent de fonctionnement dégagé en 2016, permettant de combler le déficit de la section d'investissement constatée au CA 2016. Au chapitre 27, immobilisation financière, on trouve le remboursement par la MARPA du capital de son emprunt. Pour finir, en écriture d'ordre, on trouve au chapitre 040 les amortissements pour 434 000 euros déjà vus en dépenses de fonctionnement. Et au chapitre 041, on trouve les intégrations des études au patrimoine déjà vues en dépenses pour le même montant. Voilà donc qui termine la présentation du compte administratif.
Merci Jean-Claude. J'ajoute que dans les annexes, il y avait une présentation fonctionnelle qui peut avoir un intérêt, mais qui est complémentaire, on va dire. Voilà, les amis, merci à Jean-Claude Giraud pour cette présentation extrêmement détaillée, complète, qui permet, me semble-t-il, de discuter de ce compte administratif. De ce compte administratif 2017 dont j'ouvre la discussion. Monsieur Roux.
Merci, monsieur le maire. L'opposition souhaiterait faire diverses remarques sur ce compte administratif donc 2017. Tout d'abord, en termes de recettes de fonctionnement, monsieur Géraud l'a parfaitement dit, donc les recettes de fonctionnement marque le pas. C'est pas la première année, ça fait plusieurs années que cela est le cas. Et nous constatons, monsieur le maire, contrairement à ce que vous avez pu dire lors du débat d'orientation budgétaire, quand nous parlions de la richesse de la ville de Boué, Boué est une ville riche, en effet, puisque quand on compare à la strate, alors je sais que comparaison n'est pas raison, je suis assez d'accord avec vous, mais par rapport à la strate, donc un Boétien engendre 604 euros de fiscalité contre 491 pour des communes comparables. Là où la ville de Boué est bien, bien malheureuse, et je pense qu'il faut quand même que nous en discutions ce soir, c'est au niveau des dotations d'État. Alors, j'entends bien, et je sais que ce n'est pas de votre fait, que les dotations d'État baissent, mais cependant, la dotation d'État est de 16 euros par habitant, là où elle est pour les communes de la même strate, 207 euros. 16 euros pour les Boétiens, 207 euros pour les communes comparables de la strate. Alors, l'opposition vous pose tout simplement cette première question. Comment se fait-il qu'il y ait un tel différentiel? Qu'est-ce qui le justifie? Est-ce que cela peut éventuellement évoluer? Et qu'est-ce que vous comptez faire donc sur ce point précis qui nous handicape énormément? Et il n'est pas concevable qu'un Boétien soit même bien traité que d'autres habitants de communes comparables. Est-ce que vous voulez faire point par point?
Non, continue. Continue, on voit.
Sur les charges à caractère général, monsieur Géraud, quand vous avez conclu votre analyse en disant que les charges à caractère général étaient contenues, je pense que les ménageurs autour de la table, les chefs d'entreprise, les responsables d'associations ont peut-être avalé de travers, parce qu'avec une augmentation de 117 000 euros sur un an, ce qui représente 8,30%, la conclusion est peut-être pas, votre conclusion n'était peut-être pas la plus juste. Alors, j'entends ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en tirer un bilan définitif, puisque ça varie tous les ans, mais j'ose quand même vous rappeler le discours qui était tenu autour de cette table il y a tout juste un an, quand les dépenses de fonctionnement avaient baissé de l'ordre de 4%. Je pense qu'à cette époque-là, vous nous aviez expliqué la maîtrise, et ce qui est très vrai, hein, la maîtrise, les efforts des services. Et cette année, je n'ai pas senti la même intonation dans le discours. Alors, vous preniez l'exemple, M. Géraud, par exemple, de la tour La Cassagne, qui impacte à 24 000 euros. Je suis d'accord avec vous, c'est une conséquence directe des choix qui ont été faits, et je suis d'autant plus d'accord avec vous qu'on les a votés. Donc, on ne va pas venir aujourd'hui les critiquer. Cependant, c'est un choix qui a été fait. Il y a eu, donc, pour la tour La Cassagne, deux spectacles qui ont coûté, a priori, assez cher au cours de l'année, au cours de l'été, en juillet et au mois d'août. La question qui aurait pu se poser, c'était tout simplement de faire participer les personnes qui ont donc assisté à ces spectacles, par le biais d'une billetterie. Nous avons pu constater également une augmentation, par exemple, dans ces dépenses de 11% du poste alimentation. Est-ce qu'il a été envisagé sur le prix des repas donc de faire une répercussion partielle de cette augmentation? C'est une question que nous posons parmi tant d'autres, et je pense que nous pourrions en développer d'autres. Donc sur les charges, certes, elles ont augmenté. Est-ce qu'elles sont contenues? J'en suis pas sûr, mais il est certain qu'il y aurait des pistes peut-être pour atténuer les augmentations. Vous parliez également des charges de personnel en disant qu'elles avaient été... l'augmentation était faible, et elle était notamment en relation avec l'augmentation du point, ce qui est vrai, hein, logique. Mais en préambule, M. Géraud, vous avez visé un chiffre qui est juste en disant que ces dépenses de personnel représentaient 59% du total de nos dépenses de fonctionnement. Le chiffre est tout à fait exact. En 2010, elles représentaient 49% de nos dépenses. Oui. Donc nous laissons à la libre appréciation du Conseil hein, cette différence de 10 points en 8 ans. Et donc depuis un certain temps, je crois que ma collègue Brigitte Bonfanti vous l'a déjà dit la dernière fois au niveau du débat d'orientation budgétaire, il serait peut-être temps d'avoir une réflexion poussée à ce sujet. Je ne sais pas, je termine si vous voulez, et puis après, comme vous voulez, hein, ça, voilà. Donc c'était juste pour rebondir là-dessus. Au niveau donc de dépenses d'investissement, donc elles sont légèrement en baisse, et vous l'avez dit, par rapport à 2016. Simplement, c'est vrai que le montant des investissements reste important par rapport donc aux années précédentes. Et nous voulions juste faire remarquer que par rapport à ce qui était indiqué dans le débat d'orientation budgétaire, et puisqu'on parle donc uniquement de titres émis, le taux de réalisation n'est pas de 71% comme indiqué dans le DOB, mais plutôt de 58%. Voilà, donc quelques observations de l'opposition au sujet donc, de ce compte administratif 2017.
Très bien, merci M. Roux. Bien, voilà qui alimente le débat. Alors quelques observations, et puis Jean-Claude Géraud complétera de façon plus précise sur une de vos dernières observations concernant les dépenses de personnel. Hein, si j'ai bien compris, les 10 points, en effet, sur 8 ans, il ne vous aura pas échappé qu'entre-temps, le CIVUSPOR a intégré les services de la mairie. On est d'accord.
On est bien d'accord, monsieur le maire, mais il ne vous aura pas échappé non plus qu'en contrepartie, nous avons eu les recettes du CIVU.
Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais là, vous parlez des dépenses. Là.
Oui, mais si vous voulez, on peut en parler. Sur le CIVU que nous avons intégré en 2014, on était à 54%. En 2017, trois ans après, on est à 59%. 5 points d'augmentation.
Oui, d'accord. Voilà. Mais qui a une augmentation, ça, on peut le concevoir. Mais il me semble, il faudrait calculer le poids relatif, effectivement, des personnels. Des 6 personnes qui ont été intégrées dans les services de la mairie, je crois que ça pèse. Donc il faudra regarder les chiffres, en effet. Et effectivement, s'il y a une compensation fiscale à ça, quand on prend les dépenses isolément, évidemment, on ne peut pas y ajouter les recettes. Donc je pense qu'il faudrait regarder ça, mais il ne me semble pas augmentation, et puis il faudrait décortiquer tout ça, ça peut signifier aussi le poids relatif des dépenses de personnel, des dépenses de personnel supérieures, ça peut signifier aussi que les autres chapitres de dépenses sont à la baisse. Donc, je viens d'accord.
Je suis en terme en accord avec vous, c'est assez mathématique. Le problème, c'est que cette année, ce n'est pas le cas.
Peut-être pour cette année.
Parce que quand on regarde les charges à caractère général, elles n'ont pas eu tendance à baisser. Donc on n'est pas dans cette optique-là, monsieur le maire.
Alors, après, et avant de donner la parole à Jean-Claude Giraud, qui va reprendre tout ça, deuxième point, sur les dotations de l'État. On l'a souvent abordé ici, quoi. Il y a une raison historique qui fait que la dotation globale de fonctionnement, mais vous savez qu'aujourd'hui, cette dotation globale de fonctionnement, elle est, j'allais dire, presque ridicule. Donc il n'y a plus de réduction de cette dotation, mais elle est tombée de 500 000 en gros à 100 000 euros. Donc vous voyez un petit peu, la baisse, elle est importante. C'est vrai qu'en termes de dotation de l'État, la commune de Boué, depuis, j'allais dire, 30 ans quoi, ou moins, est pénalisée. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a eu, je crois vous l'avoir déjà raconté ça, mais nous n'avons pas obtenu de correctif là-dessus. Il y avait un calcul de DGF qui était fait dans les temps anciens, avec une actualisation tous les ans, qui prenait en compte le potentiel fiscal, la richesse fiscale, etc., des communes, et tous les ans, c'était recalculé. Et la dernière année où les choses ont été recalculées, puis figées, puisqu'à partir de cette date-là, pardonnez-moi, je ne sais plus exactement quelle année, mais la DGF n'a plus évolué que forfaitairement, mais les choses n'ont pas été recalculées, et il se trouve que malencontreusement, dont ça je vous parle, j'étais pas maire à l'époque, mais je me souviens de ça, c'était dans les années 95, j'étais premier adjoint en charge des finances à l'époque, j'ai ce souvenir de la visite que nous avions faite aussi à Mme le préfet Merloz à l'époque, etc., avec Guy Saint-Martin qui était maire, et sans obtenir une quelconque correction. Il y avait à ce moment-là un conflit entre la ville de Boué et le district à l'époque au sujet d'une question très précise qui était la voie communale numéro 5, que la ville de Boué voulait voir prendre en compte par le district. Et pour ce faire, la ville de Boué avait retenu les taxes, le produit de taxes professionnelles qu'elle devait reverser au district, puisqu'à l'époque, ça se passait comme ça, c'était les communes qui reversaient au district à l'époque. Et pour faire pression, là on était dans un affrontement un peu politique là-dessus, pour faire valoir ses objectifs concernant la prise en charge financière de la réfection de la voie communale numéro 5, eh bien, le maire et le conseil municipal de Boué avaient décidé de ne pas reverser immédiatement, de provisionner, mais de garder ce produit fiscal, de ne pas le reverser au district. Et malencontreusement, encore une fois, cette année-là, ces recettes un peu exceptionnelles, mais qui, au bout du compte, ont dû être reversées au district, eh bien, ont enrichi artificiellement, si je peux dire, la commune, et dans le calcul de la DGF, eh bien, on a considéré qu'on avait un produit fiscal encore supérieur à ce que nous avions. Et à ce moment-là, les choses ont été figées. Malgré toutes les interventions que le maire de l'époque a pu faire, nous n'avons rien obtenu là-dessus, et donc nous sommes pénalisés. Je sais que je parle de mémoire et sous le contrôle de certains ici qui ont les chiffres en tête, je pense à Muriel, que par rapport à notre commune voisine et amie de Bonencontre, nous avions une DGF qui était presque deux fois moins élevée, pas tout à fait, mais que la commune de Bonencontre. C'est ça, Muriel, ou je dis des bêtises? En tout cas, sensiblement inférieure à la commune de Bonencontre, qui se trouvait finalement un peu dans les mêmes dispositions. Donc voilà. Alors je suis quand même étonné par ce chiffre que nous allons vérifier. Ce rapport quand même entre 16 euros par habitant de dotation de l'État et 200 et quelques, on m'interpelle, mais je veux bien le...
Je vous invite, monsieur le maire, c'est dans le compte administratif, sur la page 4,
d'accord.
Sur le tableau DGF population, hein, c'est le point 6.
On regarde ça, il y a un ratio là-dessus, et il est comme ça, oui, donc il est élevé. Muriel, une précision peut-être, et Jean-Claude après. Non, mais ce ratio... Le ratio de 2014. Mais ça veut dire quand même qu'en 2014...
Ah, 2014 a été de combien la DGF ?
Ah bah oui, mais attention, oui, en 2014, notre DGF était de 500 000 euros, elle n'est pas de 100 000.
Mais moi, je reprends les chiffres qui sont portés. Et pourquoi on a une DGF de 2014 par rapport à 2017 ? On devrait avoir quand même un chiffre plus récent, alors, dans ce cas-là.
Ah oui, pas de chiffre récent.
Mais vous convenez quand même qu'on a un écart qui est quand même très important entre l'un et l'autre.
Incontestablement, on a un écart. Ça, il me paraît quand même... Alors, il n'est pas de cet ordre-là. Encore une fois, vous me diriez que, par habitant, la commune de Boé touche deux fois moins que la strate. Ça, je pourrais l'entendre. Là, c'est beaucoup plus fort. Et je vois qu'il y a une explication technique, en effet, là, qui... voilà. Donc, moi, je vous propose, notamment en commission des finances, de ressortir les éléments de comparaison pour établir. Mais il n'est pas contestable, en tout cas, qu'on a une dotation de la part de l'État qui est sensiblement inférieure à la strate, ça on ne le conteste pas. Mais là, ce rapport de 16 à 200 m'interpellait quand même. Donc il y a une explication technique au moins partielle. Oui.
Et sur ce point précis, il n'y a pas moyen de faire une intervention, une fois encore. Enfin, je pose la question. Hein.
On les a faites, je voulais rappeler, avant que je sois maire, et on les a refaites depuis. J'ai fait des interventions diverses qui n'ont pas abouti. Très bien. Jean-Claude, pour prolonger et expliquer ça. Et puis, pardon, un mot, Jean-Claude, et puis après, je te laisse approfondir tout ça. Sur les dépenses de personnel, convenez, puisqu'on s'attache à regarder d'une année sur l'autre comment ça évolue, que ces dépenses de personnel sont contenues. Jean-Claude Giraud vous a dit que si nous prenions les augmentations mécaniques résultant du point d'indice, résultant de la reclassement des personnels, etc., etc., nous sommes au-delà de ces 1,46%, je crois, hein, c'est ça, hein, d'augmentation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu, cette année encore, du redéploiement de personnel, du non-remplacement, nombre pour nombre, des départs à la retraite ou des redéploiements, qu'il y a eu aussi, c'est vrai, des renouvellements de personnel, quand vous avez des personnes qui partent à la retraite, et qui ont forcément en fin de carrière, qui ont un niveau de rémunération supérieur à ceux qu'on recrute, eh bien, il y a mécaniquement... Voilà. Mais tout ça pour dire que sur le personnel, convenez qu'il y a une maîtrise, en tout cas, de ces dépenses de personnel. À côté de ça, je vais vous donner la parole, bien sûr, à côté de ça, moi, je veux rappeler une chose, c'est que nous sommes dans une commune en expansion... modéré sans doute, mais en expansion au point de vue de sa population, en expansion au point de vue de sa dynamique d'aménagement, de sa dynamique de diversification des services apportés à la population, d'amélioration des services rendus sur le plan scolaire, sur d'autres plans également. Voilà, et que par conséquent, il faut assumer qu'on ait des dépenses nouvelles et y compris peut-être des dépenses de personnel. Moi, je suis, tout comme vous, très attaché à ce qu'on maîtrise parfaitement les dépenses de personnel. Pour autant, le service public, il ne sera pas déployé dans de bonnes conditions s'il n'y a pas les personnes pour porter ce service. Et par conséquent, je suis attaché, comme vous, à ça, mais il ne faut pas en faire non plus un objectif simplement de réduction... à la hache des dépenses de personnel, il faut le faire à bon escient. Moi, je suis satisfait. Et si tous les ans, on peut obtenir une maîtrise à cette hauteur, à mon avis, c'est parfait. Pour le reste, sur les charges à caractère général, c'est vrai qu'on a une augmentation cette année sensible. Moi, je suggère, et d'ailleurs, en commission des finances, et pas seulement en commission des finances, d'ailleurs, mais je suggère qu'on fasse... une étude sur 5 ans, par exemple, quelque chose comme ça, de voir comment les choses évoluent. Parce que tu l'as tout ça. Bon, très bien. Donc, il faut le voir. Parce qu'effectivement, Jean-Claude Giraud a parfaitement expliqué, me semble-t-il, le phénomène d'Andecy qui tient à la survenance de certaines opérations à réaliser. Quand il vous parle du curage du bassin de Saint-Marcel ou d'autres choses, ben, ça ne revient pas tous les ans, bien entendu, et donc ça crée des pics. Il y a d'autres types de de dépenses qui sont du même ordre. Et puis il y a des choses nouvelles que nous assumons ou pas. Dans le projet Maison de Garonne, mais vous en avez parlé, il est clair que quand nous nous engageons là-dessus, c'est non seulement prévisionnellement à quelques dépenses d'investissement pour réhabiliter la tour, mais c'est aussi pour faire vivre tout un projet qui est certes subventionné, mais qui entraînera de notre part des dépenses de fonctionnement. Vous prenez un exemple, et vous avez raison de le prendre, cet été, et ça a été, disons, les animations phares pour donner vie à ce projet, c'est-à-dire les deux belles animations d'été qui ont réuni 500 et 600 personnes à chacune de ces personnes. Ça a un coût, effectivement, que l'on peut rappeler d'ailleurs. Ça a un coût. Et nous avons fait le choix, après discussion dans les commissions considérées, d'appliquer la gratuité. C'est vrai qu'on aurait pu faire une billetterie là-dessus et que peut-être à l'avenir la question se posera. Mais moi, je suis là, on est vraiment dans un débat municipal tout à fait légitime. Je veux dire, ça, on peut dire, en effet, voilà, vous voyez qu'on a des dépenses, il faut les maîtriser. Est-ce que la gratuité, c'est... Est-ce que ce projet Garonne, il est justifié, il est légitime, etc. Là, voilà, quoi. Et on peut avoir des opinions diverses là-dessus. Mais ceci étant dit, j'entends et je dis, moi aussi, qu'il nous faut être vigilants sur la bonne maîtrise aussi, et globalement, et sur moyen terme, de ces dépenses à caractère général. Il faut éviter des pics. D'autant, si vous voulez, moi, le juge de paix, je ne sais pas si Jean-Claude l'a dit, mais bien sûr que ça saute aux yeux, que le fameux effet ciseau entre les recettes et les dépenses, il réapparaît quelque peu. Nous étions, j'ai de bonne mémoire, l'an dernier, sur un effacement de ce phénomène, mais qui réapparaît un peu là-dessus. Donc, ça doit nous alerter. Hein, on ne peut pas durablement faire converger dépenses et recettes. Il faut garder un parallèle là-dessus. Et nous sommes bien d'accord que ça doit être un objectif pour nous, et d'ailleurs un objectif dès les budgets à venir. Pardon d'avoir été long, Jean-Claude.
Oui, alors dans ma présentation, plutôt que de faire un arrêt sur image, si je peux dire, sur un pourcentage comme ça, j'ai surtout essayé de faire ressortir des tendances et de travailler les données pour effectivement faire ressortir des tendances. Alors en ce qui concerne les charges de personnel, on en a parlé. Lors du débat d'orientation budgétaire, on a bien vu, on a présenté une courbe qui montre bien que cette courbe reste stationnaire. Si on la ramène au nombre d'habitants. Alors, le maire a parlé de la démographie, mais on est resté stable. Donc, voilà. Ensuite, en ce qui concerne le chapitre 011, de façon imagée, je disais qu'il faisait des sauts de cabri. Alors, effectivement, c'est un chapitre qui se laisse difficilement enfermer dans une tendance précise. Alors, quand on raisonne comme ça, pourcentage après pourcentage, on ne saisit pas cette tendance. Alors, je vais vous donner quand même quelques éléments qui vont vous permettre de comprendre comment ce chapitre s'est comporté dans le temps, uniquement vous donnant des pourcentages de variation. Alors, par exemple, je commence à partir de 2017. Voilà. Alors, je vais annoncer ça. Donc, première année, moins 9,5. Année suivante, plus 23,69. Année suivante, moins 10,15. Année suivante, moins 3,64. Année suivante, plus 2,70, puis 12,85, puis 8,80, moins 0,99, moins 4,73, et puis cette année, plus 8,30. Donc on voit bien que c'est un chapitre qui ne se laisse pas enfermer dans des tendances. Comment dire que les dépenses sont contenues? Ça amène nécessairement à faire un minimum de retraitement des données comptables. C'est ce que j'ai essayé de faire en amenant ce pourcentage d'évolution de 3,3% qui représente vraiment la progression du noyau dur de ce chapitre. Sachant que marginalement, il peut y avoir effectivement des opérations, des événements qui interviennent une année, pas l'année d'après. Enfin, voilà. Alors j'ai essayé de dégager cette tendance. Voilà.
Bien sûr. Qui souhaite intervenir là-dessus, sur le compte administratif? Bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais me retirer.
Alors, en vertu des considérants et références juridiques détaillées dans le projet de délibération, je vous propose, chers collègues, de bien vouloir adopter, hors la présence de Monsieur le maire, le compte administratif tel qu'il vient d'être présenté.
Bon, il y a d'autres interventions ? Non ? Bien, donc je mets cette délibération au vote. Qui est contre ? Un, deux, trois, donc quatre. Quatre. Qui s'abstient ? Bien, merci.
C'est toi qui vas t'occuper, qui va dire à la demande
de position.
À la demande, on annule.
Il faut expliquer. Et que tu reprocèdes.
D'accord. Bon, on va reprendre.
Je vais essayer de pas lever le doigt.
Bon, donc, on va reprendre donc. Le vote de la délibération, puisqu'à la demande d'Henri Jacquin, nous allons donc annuler, c'est ça, le vote de tout à l'heure concernant le compte administratif, et nous allons refaire donc un vote. C'est bon ? Donc je reprends cette délibération sur le compte administratif. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Quatre. Voilà, donc c'est quatre abstentions pour les autres. Merci.